Seigneur, ce matin, on est réunis ici pour te prier, pour t'adorer, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que tu enlèves tout ce qui n'est pas de toi d'ici, tout ce qui n'est pas de toi de nos cœurs, Seigneur. Enlève-les au nom de Jésus, nous te le demandons. Mais plutôt, envoie ton esprit, Seigneur, pour nous inspirer, pour nous aider à comprendre avec notre cœur ce que tu nous dis par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce matin, écoutez, ce ne sera pas trop original. On reprend encore Abraham. On avait vu la première fois avec Michel les quatre premiers versets du chapitre 12. Marc avait repris les trois premiers versets. Bon, je me suis dit, on va au moins se rendre jusqu'au 9e ce matin. On va lire le texte de 1 à 9. Merci. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et leurs serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé de Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en avançant vers le midi. Je vais commencer ce matin par une histoire. Bon, le titre de ce que je vais aborder, c'est « Toi qui migres, le Seigneur t'a choisi ». On parle en fait de l'élection ce matin. L'élection de chacun de nous. Je vais commencer par une histoire. Si jamais il y a des noms qui coïncident avec des personnes d'Église, c'est absolument pas prévu. J'y avais juste pas pensé. Et c'est l'histoire de Marie-Ève. Marie-Ève qui est une adolescente, fille de pasteur. Sentez-vous pas visée, les filles. Malgré qu'il peut y avoir des choses qui coïncident. Marie-Ève, écoutez, c'était une très, très, très jolie jeune fille. Puis, le temps de son bal définissant arrivait. Mais elle n'avait pas de chum, elle n'avait pas de copain. Donc, elle se disait, je vais demander de toute façon à quelqu'un de mon église. Puis en plus, en disant ça, je vais me trouver quelqu'un pour m'accompagner qui vient de mon église. Son père, qui est pasteur, voyait ça plutôt d'un bon œil. Il trouvait que c'était une bonne idée. Ce n'était pas une église nécessairement très, très grande, ça fait qu'il y avait peu de candidats possibles pour l'accompagner. Il y en avait un que tout le monde était sûr qu'elle allait choisir, Jonathan. Jonathan, c'était le beau mâle de l'église. Il avait des yeux à faire craquer les filles. il regardait quelqu'un tomber en amour avec lui. C'était un beau gars. Il y avait aussi Diego. Diego, ben lui, peut-être pas aussi charmant, naturel que Jonathan, mais quand même charmeur. C'est le genre de gars qui arrive à une place, qui commence à parler, puis tout le monde se met à rire, tout le monde l'écoute. C'est amusant, ça, surtout pour un bal définissant, d'avoir quelqu'un comme ça pour l'accompagner. C'est un gars sympathique, un gars qui était bien vu par tout le monde. Puis il y avait aussi Alexandre. Alexandre était plutôt low profile. Il est d'une famille un peu dysfonctionnelle. Il est un peu réservé aussi, parce que c'est quelqu'un qui avait souffert pas mal d'exclusion dans sa vie. Pas nécessairement de bullying, mais... c'était pas quelqu'un comme Jonathan qui pouvait s'habiller avec des beaux vêtements non plus. Il était... Donc, ça affectait un petit peu son estime de soi. Il prenait moins soin de sa personne, donc. Moins bien habillé. Faisait moins attention à lui. Un petit peu plus gros que la normale. Pas toujours la coupe de cheveux dernier cri. Mais Marie-Ève a choisi Alexandre pour l'accompagner. Quel mystère! Pourquoi? On ne comprend pas. Et en fait, on a beau essayer de penser avec ce que j'ai donné comme critère ici, là, comme description, puis on ne comprend pas vraiment pourquoi Marie-Ève, la plus belle fille qu'il pouvait y avoir dans le quartier, la plus belle fille de l'Église, qui avait tout pour elle, qu'elle ait choisi Alexandre. Mais c'est ce qui se passe avec nous. On ne comprend pas toujours pourquoi le Seigneur nous choisit. Pourtant, on se dit, « Bon, écoute, j'ai pas grand-chose à offrir à l'Église. » Mais il nous a choisis, point. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On ne sait pas trop non plus. Le Seigneur le sait, lui, ce qu'il va faire avec ça. Puis regardez, on a des exemples assez frappants dans la Bible où on se dit la même chose. Où les personnes qui ont été choisies par Dieu se disaient la même chose qu'on a pu se dire à propos d'Alexandre. Moïse qui a été appelé à guider le peuple d'Israël en dehors d'Égypte, à le libérer, à le guider, à lui communiquer la parole de Dieu, alors qu'on dit dans le texte qu'il avait la parole pesante. Il n'était pas trop bon pour parler, et pourtant il a eu la fonction de communicateur. Puis là, bien évidemment, ce qui vient dans la tête de Moïse, c'est « Écoute Seigneur, tu t'es peut-être trompé ». Peut-être, parce que je ne corresponds pas tout à fait à ce que tu as besoin. Puis Paul est bègue. Paul est bègue et il doit répéter, proclamer la parole du Seigneur. Écoute, tu aurais pu prendre, Seigneur, un meilleur instrument pour que ça soit un petit peu plus fluide. Mais non. On ne comprend pas pourquoi Dieu les a choisis sur le coup. Un peu la même chose pour Abraham, pourquoi il l'a choisi. Parce qu'Abraham, il n'avait jusque-là rien fait de spécial. De fait, il n'est pas choisi pour ce qu'il a fait, mais tout simplement parce que Dieu a décidé de mettre la foi en lui. Et à partir de là, il l'a suivi. Ce n'est pas à cause ou grâce à ce qu'on fait que Dieu nous choisit, mais c'est plutôt pour ce que nous allons faire, pour sa gloire puis son honneur. C'est ce qui fait qu'on est choisi. Choisi en partie. Il y a deux choses. Hein? Puis on dit souvent, quand on parle de l'élection, on va dire souvent des choses contradictoires, d'ailleurs. On dit, Dieu nous a mis un talent et c'est pour ça qu'il nous a choisis pour faire proliférer ce talent. Et puis on le voit, on l'observe, ça arrive des fois. Je me sens à l'aise dans ça, je sens que je suis capable de faire ça, j'aime faire ça, Dieu l'a mis dans mon cœur et me choisit pour le faire. Puis en même temps, on va dire aussi que Dieu choisit indépendamment des talents. Et les deux sont vrais. Il y a toujours une part des deux. On a un talent pour faire des choses que Dieu va utiliser, et il y a d'autres choses pour lesquelles on n'a ni talent, ni envie, ni goût. et que ça ne nous tente donc pas, et pourtant Dieu nous choisit quand même de le faire, pour le faire. Donc Dieu nous choisit en partie pour le don et les talents qu'il nous a donnés lui-même, mais aussi en même temps, indépendamment de ces talents-là. C'est ce qu'il a fait avec Moïse, c'est ce qu'il a fait avec Paul. Moïse, imaginez-vous, qui devait proclamer la parole dans une langue qui n'était pas la sienne. Il a été élevé par des Égyptiens. Et puis là, il y a eu une éducation égyptienne, et puis là, il se retrouve le communicateur par excellence du Dieu des Hébreux. Une langue qu'il a appris très tard dans sa vie. Puis de fait, il n'a jamais vraiment vécu longtemps avec les Hébreux. Il a surtout vécu en exil, ailleurs. Évidemment, il ne se sentait pas très à l'aise dans cette langue-là pour pouvoir s'exprimer. Paul, lui, qui était bègue, devait parler à des gens qui, quelques mois, quelques années avant, il avait persécuté. C'est-à-dire que quelques mois avant, il serait arrivé devant ces gens-là avec une épée pour les arrêter ou pour les faire arrêter. Puis là, il doit leur proclamer la vérité, la parole de Dieu. Évidemment, même si on n'est pas bègue de naissance, on le devient un peu dans ce genre de situation-là. Ce n'est pas facile. Et pourtant, Dieu les a choisis. Les deux n'avaient pas particulièrement le don de la parole, puis ont été appelés à prendre la parole, à annoncer, puis à proclamer. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. Il y a des choses que Dieu nous donne comme talent, et on réussit à les faire, et on les fait avec joie et avec goût. Puis il y en a d'autres, ça nous tente moins, et pourtant Dieu nous appelle aussi à le faire. Et souvent, il va servir des corrélations. Parce qu'il y a une facilité quelque part, parce qu'il y a une envie de faire quelque chose, ça va nous amener à faire quelque chose d'autre, qui peut-être au premier abord, jamais on aurait pensé qu'on pouvait le faire. Parce qu'il y a ça aussi comme problème, c'est que Dieu a à travailler avec un être humain qui ne comprend pas toujours du premier coup. Donc, c'est bien beau dire « je t'appelle à faire telle chose », mais non, moi, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas capable de le faire, je n'ai pas le talent qu'il faut pour. Donc, il y a sa stratégie. Il nous casse quelque part. Il s'arrange pour qu'on se rende compte de ce qu'on peut, nous, accomplir pour son honneur puis sa gloire. Et ça, c'est tout un travail. C'est ce qu'on appelle le discernement, en fait. Puis certains sont peut-être plus durs que d'autres, ça prend plus de temps. Pour certaines missions, ça m'aura pris 48 ans à partir du 13 juin prochain. Pour d'autres, ça m'en prendra encore plus, parce qu'on ne le sait pas encore. Mais quand on est appelé à faire quelque chose, c'est parce qu'on est choisi, on est élu. Quand on parle d'élection aussi, chez les chrétiens, on y donne deux sens au mot élection. Il y a l'élection comme sauvé. On est sauvé, on est élu. Si on devient chrétien, si on fait notre prière, si on entre en communion avec Dieu, c'est parce que Dieu nous a choisis pour faire partie de cette communion-là. Ça, c'est une élection, l'élection pour les sauver. Mais il y a aussi une élection pour jouer un rôle que Dieu a choisi pour nous. C'est surtout de ça dont il s'agit ici. Ce à quoi Dieu m'appelle personnellement. Abraham, Dieu a fait ça avec Abraham. Il est allé chercher à Haran, puis il a dit, pars. Puis là, Abraham, il sait ni où il s'en va, puis il ne sait pas ce qu'il s'en va faire non plus. Puis il part. Et ça devient pour les chrétiens, pour les juifs aussi, l'exemple de la foi. Avec ce contact-là qu'on a dans la prière avec Dieu, comprendre qu'on a juste à le suivre. Puis lui, il va faire le chemin pour nous. Évidemment, nos inquiétudes humaines, puis Michel en parlait il y a deux semaines, font en sorte qu'on résiste parfois. On se dit, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va nous arriver? Il avait bien pris l'exemple, justement, de son propre processus migratoire, que des fois, on dit, ah, c'est une migration entre Mont-Saint-Hilaire puis l'Abitibi, c'est pas si pire que ça. C'est faux. Ça peut être très tragique, parfois. Il y a des idiosyncrasies, des cultures, des façons d'être qui sont complètement différentes. Et justement, parce qu'on ne se méfie pas, on se dit, ben ça, c'est le Québec, de toute façon, c'est pas grand-chose, on se prépare moins. Et puis, il y a un inconnu. Qu'est-ce qu'on fait avec la maison? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui s'en vient? Comment est-ce qu'on va faire là-bas? Il n'y a personne encore dans l'Église. Comment est-ce qu'on va vivre? Il y a toute cette incertitude-là. L'exemple d'Abraham, c'est de dire, « Fais ce que je te dis. Suis-moi. » C'est Dieu qui dit ça à Abraham. Et on le suit. Chaque processus migratoire, et c'est important d'avoir ça, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit même dans la vie professionnelle, quand on part d'un emploi pour aller vers un autre, dans tout ce qu'on fait pour qu'on parte d'une vie célibataire à une vie de marié, une vie de couple sans enfant avec une vie de couple avec beaucoup d'enfants, c'est toujours un processus migratoire et ça a toujours à voir avec l'élection. Je vous envoie la première lettre de Pierre au chapitre 1, verset 1. Ce n'est pas la première fois que je cite ce passage-là ici. Je trouve qu'il y a tellement de choses dans ces deux petits versets-là, les versets 1 et 2. Ça dit tout simplement, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, c'est l'adresse, hein? C'est Pierre qui écrit sa lettre, qui rédige sa lettre, ou le rédacteur qui rédige la lettre, qui dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, et qui participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix soient avec, soient multipliées. » Pour vous. Celui qui est étranger, dans la lettre de Pierre, c'est celui qui est élu. Celui qui a dû partir, celui qui a dû fuir les persécutions, c'est celui qui est élu. Il y a une élection. Imaginez à l'époque de Pierre, à l'époque des premières communautés chrétiennes aussi, les gens partaient sans savoir exactement où ils allaient et qu'est-ce qu'ils allaient faire. En plus, ils partaient à cause des persécutions. Mais pour maintenir l'Église et construire l'Église, le Seigneur les a invités à partir, même si ce n'est pas dit explicitement dans le texte. C'est vécu dans la foi de ces gens-là. Puis, Abraham, lui, est en constant déplacement. Vous avez vu, il arrive aux chênes de Morée, il arrive à Canaan, il arrive aux chênes de Morée. Ensuite, il va au mont de Bethel, il monte ses tentes. Puis, à Canaan, il se fait dire par le Seigneur, « Bon, ben ça, c'est la terre que j'ai promis pour que je promets à tes descendants. » Oups! Ça n'a pas été long que, entre guillemets, la promesse n'a pas l'air d'avoir été tenue. Quelques versets à peine, puis on repart. Puis, le passage que j'ai lu termine par « Il a continué ses marches, au pluriel, vers le midi. » Donc, on se dit, bien, à un moment donné, d'ici le chapitre 25 de la Genèse, il va bien arriver quelque part. Puis finalement, la seule terre qu'Abraham a possédée dans sa vie, c'est celui de la sépulture de Sarah, au chêne de Mambré, là où il avait rencontré les trois visiteurs, là où il avait rencontré le Seigneur lui-même. C'est la seule parcelle de terre qu'il a possédée dans la terre promise. Abraham aurait dû se décourager. Abraham aurait dû être fâché, se dire, « Bien, écoute, le Seigneur m'a promis quelque chose, puis je ne l'ai jamais vu, mon vivant. » Puis là, je vous envoie à la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 13. Le verset dit, en parlant d'Abraham et de Sarah et leurs descendants les plus proches. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est ça notre condition sur la terre, d'être en constant déplacement, d'être en constante recherche de quelque chose. Puis parfois, on a de l'air de personnes comme chrétiens qui courent après le vent, qui courent après on ne sait pas trop quoi. Puis il faut revenir toujours à la prière, puis se dire, bon, après quoi je suis en train de courir? Qu'est-ce que je cherche dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment un lieu? Est-ce que c'est vraiment seulement une mission? Ou peut-être ce que je cherche va se construire à travers ma mission et à travers le ministère que le Seigneur va me donner? Et là, il y a peut-être une piste de réponse. Dieu lui avait promis d'être le père d'une multitude de nations et d'une grande nation avec Sarah. Et ensemble, ils ont eu un seul fils. Mettons qu'en termes de multitude et de grande, ce n'est pas à proprement parler ce qu'on aurait attendu de ça. Et pourtant, aujourd'hui, on se dit, mais la nation d'Israël, ça a été une grande nation. Une nation qui a souffert, une nation qui s'est déplacée. Mais ça a été une grande nation aussi, parce que c'est une nation qui a lutté et qui a cru. Une nation qui a existé il y a 3000 ans et qui existe encore. La plupart des nations contemporaines à Israël, à l'époque d'Abraham, n'existent plus. Ce n'est pas le cas d'Israël. Et il y a aussi sa descendance dans la foi, parce que est-ce que Abraham était porteur d'une semence, d'une nation, d'un peuple ethniquement composé, ou plutôt d'une nation, d'un peuple qui est porteur d'une foi précise en quelque chose qui allait se manifester à travers de son histoire, c'est-à-dire la mort et résurrection de Jésus, sa présence, l'incarnation de Dieu dans le monde. Et puis quand on regarde ça comme ça, et tous ceux qui sont porteurs d'une façon ou d'une autre de la foi et qui cheminent vers cette foi-là et dans cette foi-là, dans le monde, bien, on se dit, bien sûr, toute une bénédiction. Ça se réalise, ce que Dieu a promis, c'est là, c'est avec nous. On ne peut même pas dire que c'est quelque chose à venir, c'est quelque chose qui est là, présent avec nous. Mais Abraham n'avait absolument rien, lui, pour dire, pour penser que c'était quelque chose de fait par lui. Il n'y avait rien. Et pourtant, il a continué à croire. Et c'est un peu le défi, nous, qui nous est lancé. C'est de continuer à croire, même si on pense parfois que les choses n'arrivent pas. Et Dieu sait que souvent dans ma vie, j'ai pensé que les affaires n'arrivaient pas. Et ça m'arrive encore. Hein. Comme je vous disais, comme je vous dis toujours, le premier à qui je prêche, puis le premier que je chicane quand je parle comme ça, c'est moi-même. Ça paraît mieux quand je le fais comme ça que quand je me parle tout seul. Mais on a constamment à se dire ça. Il y a quelque chose qui vient. Moi, je ne comprends pas tout en ce moment-ci. Seigneur, éclaire-moi, explique-moi ce qui se passe. Et petit à petit, il me permet de comprendre. D'affiner un petit peu plus mon rôle aussi dans cette histoire-là, dans l'histoire dans laquelle je participe. Parce que si j'ai un ministère, si j'ai des dons, si j'ai un rôle à jouer, c'est précisément pour construire cette fin-là. On est des co-créateurs. On n'est pas des créateurs nous-mêmes, mais on est des co-créateurs. On participe à la création du Seigneur. On est partie prenante de ce projet-là. Et c'est ça qui est beau, qui est magnifique. Et la beauté de tout ça, c'est qu'on ne sait pas où on s'en va aussi. On ne sait pas ce qui va devenir, parce que si je pouvais circonscrire dans ma tête ce qui adviendra, ça ne serait pas fameux. C'est une bonne chose qu'on sorte de ce cadre-là, qu'on sorte du possible, qu'on sorte de ce qu'on est capable de nous imaginer dans notre intelligence humaine. Parce que ça va au-delà de ça. C'est le projet de Dieu. Ça dépasse sa propre création, ça dépasse que sa création, c'est-à-dire nous et les êtres vivants, sommes capables de nous imaginer. C'est plus grand que tout ça. C'est plus grand que notre propre imagination. Parfois, ce qu'on fait nous semble petit. Un peu comme Abraham avec sa postérité assez limitée, ce qu'on fait nous semble petit, puis on se dit, ouais, c'est rien ce que je fais à côté d'un autre. Petit ministère que j'ai, tout ce que je fais comme ministère, c'est assez low profile comparé à tout ce qu'un pasteur peut accomplir. Comme professeur avec quelques dizaines d'étudiants ou en écrivant un article scientifique à peu près pas plus que 10 personnes vont lire dans le monde, on se dit, bof, ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact. On a beaucoup de plaisir à le faire, par exemple, mais on se dit, l'impact n'est pas fort. Mais on ne sait pas ce que le Seigneur va faire avec ça. Il peut prendre ça pour inspirer quelqu'un que je ne connaîtrai jamais. Puis des fois, il y a des choses assez incroyables qui arrivent à ce point de vue-là. J'ai écrit il y a quelques années un livre. C'est une thèse de doctorat, c'est quelque chose de sec, d'aride. C'est comme manger de la roche ou à peu près. Puis j'arrive, j'habitais pas au Québec à ce moment-là, j'arrive au Québec, je donne une conférence et je me rends compte que mon livre est lu dans des milieux évangéliques. Et je n'étais pas proche du tout à ce moment-là des milieux évangéliques québécois. À partir de ce moment-là, je me suis rapproché des milieux évangéliques québécois parce qu'on a commencé à m'inviter tout simplement, parce qu'on a commencé à venir à mes cours. Et ce sont mes étudiants qui m'ont évangélisé, qui m'ont amené à l'ETHEC, ici. Puis là, ça fait boule de neige. Et c'est ça qui se passe. Quelque chose où, de connu, il y a peut-être 7 personnes dans le monde qui ont lu ça. Mettons un ou deux de plus que je ne connais pas. C'est tout. Et puis, ça a eu un impact, d'abord et avant tout, sur moi-même. Donc, des choses qu'on fait, qui semblent anodines, qui semblent sans portée. Puis finalement, il y a quelque chose qui se passe avec ça. Et ça, là, on raconte ce qu'on sait, parce que c'est toujours ça dans le témoignage, on ne peut que raconter ce qu'on sait. Mais le plus merveilleux, le plus gros, puis le plus beau qui vient là-dedans, c'est ce qu'on ne sait pas encore. Imaginez si Abraham s'était imaginé lui-même qu'à partir de cet événement-là qu'il a vécu, de son départ, qui pour lui... devait être quelque chose, bien, quand on en pacte, il faut qu'on parte. C'était peut-être juste ça dans sa tête qui est passé. Il apprend à connaître le Seigneur. S'il s'était imaginé que 3000 ans plus tard, ou un peu plus même, il y aurait des dizaines de milliers, des centaines de milliers de groupes de chrétiens qui parlent de cet événement-là comme inspirateur de leur propre foi. Imaginez. Ce qu'Abraham a vécu a passé dans les annales et dans les livres d'histoire d'aucun peuple du monde. Nulle part on a ça. Il n'y a pas un historien qui s'est intéressé à ça. C'est un récit de foi. Il ne faut jamais, puis ça, au Québec, on a un gros problème avec ça. Il ne faut jamais sous-estimer ce à quoi on peut être appelé. Notre tendance ici, toujours pas trop paraître. On a donc peur d'être prétentieux. Si je prends la parole, qu'est-ce que les autres vont dire? Puis il faut toujours dire, bien, moi je pense, il me semble que peut-être, dans nos phrases. Puis c'est pas très convaincant, on parle de l'Évangile quand même, on sait un petit peu ce en quoi on croit, on a la foi, montrons-le. Bien oui, on croit qu'on va être sauvé par Jésus, qu'on est sauvé en Jésus. Oui, on le croit. Disons-le, on n'a pas à dire, bien, il me semble que peut-être, ça se peut, je ne sais pas, mais non. Il faut avoir confiance en ce qu'on dit, il faut avoir confiance en ce qu'on affirme. Il faut avoir confiance au fait que Dieu peut nous élire, peut nous choisir pour accomplir de grandes choses. C'est autre chose si on dit, Seigneur, utilise-moi que pour des grandes choses. Ça, c'est autre chose. Mais si on dit, Seigneur, utilise-moi comme tu le souhaites. Et surtout, supporte-moi dans les difficultés que ça va représenter. Parce que les difficultés ne pourront pas être évitées, ne vous en faites pas. S'il y a une certitude, une parole dans la certitude que je peux dire ce matin, c'est que vous ne serez jamais épargné des difficultés. Et on ne peut pas non plus demander à Dieu d'éviter, qu'il nous évite ces difficultés-là. Même Jésus n'a pas été, on ne lui a pas fait éviter ces difficultés-là. Si tu peux enlever la coupe qui vient pour moi, Seigneur. Non, il est passé par la mort parce qu'il fallait qu'il passe par là pour passer à la résurrection, pour quelque chose de plus grand. Mais ce qu'on peut demander, par exemple, au Seigneur, oui, c'est de nous accompagner. Et ça, on le sait qu'il va toujours être là. Mais quand on l'affirme, quand on prononce ces paroles-là, puis qu'on dit, Seigneur, sois avec moi dans la difficulté, sois avec moi dans l'adversité, sois avec moi dans la résistance de la part des autres, aide-moi à discerner, aide-moi à comprendre, j'affirme aussi humblement que je lui appartiens, que je ne peux rien sans lui. C'est là que l'humilité doit être. Mais quand on a à faire notre tâche, faisons-le fermement avec conviction et avec autorité, parce qu'au nom de Jésus, on a toute l'autorité du monde. Si on n'y va pas avec confiance, quand on proclame la parole, quand on sert le Seigneur, c'est comme si on disait dans le fond, ben c'est pas une grosse affaire ce que le Seigneur nous dit, fait que c'est pas grave si je réussis pas à le faire. Quand on pense être humble dans notre attitude, ce qu'on fait, c'est un peu l'inverse, c'est qu'on diminue, on affaiblit la valeur de ce qu'on proclame, de ce à quoi on aspire, de la foi qu'on porte. Et ça, comme chrétien, on ne peut pas faire ça. Et tous dans notre cœur, on le porte, on le sait, qu'on ne peut pas abdiquer dans ces situations-là. Mais évidemment, il y a quelque chose toujours qui est présent, puis qui fait en sorte de dire, ben, voyons, t'es qui, toi, pour prétendre autant que ça? Et ça, il ne faut pas avoir peur non plus. Encore avec l'autorité du Seigneur, de dire, au nom de Jésus, avec toute l'autorité que ce nom-là me confère, va-t'en d'ici. Tout esprit de dissuasion, tout ce qui me porte à croire que je ne serai pas capable de le faire, on le chasse, au nom de Jésus. Ça fait partie d'assumer notre rôle comme élu. Dans mes temps libres, j'écoute les prédications de l'Oasis, même quand je ne suis pas là. Surtout quand je ne suis pas là, parce que quand je suis là, ben, je les écoute ici. Puis, une image qu'a utilisée Marc la semaine dernière autour de ce même texte-là pour parler de la diffusion dans les nations, puis de notre rôle aussi dans la communication de la parole puis de l'Évangile. Il prenait l'exemple des câbles à booster, pour prendre un bon français. La batterie de char. Puis ça m'a fait penser à ma propre histoire de batterie de char. L'an dernier, j'ai eu la bénédiction que mon oncle m'a offert sa voiture, ce qui a été assez important pour le ministère qui a suivi après. Puis, ça faisait plusieurs mois, même années, qu'elle dormait dans le garage. Ça fait que la batterie était morte. Il fallait la recharger à chaque fois que je démarrais l'auto. Puis là, bon, je voyais l'aiguille était à moitié. On était à Québec. L'aiguille était à moitié du réservoir d'essence. Je n'avais pas assez d'essence pour me rendre à Montréal. Ça voulait dire que quand j'allais mettre de l'essence, il fallait que j'appelle la remorqueuse pour qu'ils viennent me recharger pour pouvoir continuer. Puis à chaque fois que je me déplaçais, il fallait recharger. Bon, ça va. Je me dis, à Montréal, de toute façon, je vais voir, à partir de là, je vais voir un ami mécanicien, puis il va me remplacer ma batterie, tout ça. Il fallait que je recharge la batterie. Pas de problème, j'ai l'ancienne voiture, je peux la recharger. Mais il y a quelque chose sur lequel je ne comptais pas, c'est le piètre connaisseur d'auto que je suis. Et puis, je me suis dit, je suis bien capable de booster un char quand même. Hélas, non. Puis, là, sur une des deux batteries, ça allait bien parce que je voyais bien le positif et le négatif. La Trinité, je peux en parler, mais batterie de char, je trouve ça plus compliqué. Puis sur l'autre batterie, ben, qui était plus vieille, on ne voyait pas ni le positif ni le négatif. J'essayais de la nettoyer un peu, je ne le voyais pas plus. Là, je me suis dit, bon, il y a une bande noire, il y a une bande rouge. Le rouge, quand je dis « je suis dans le rouge », dans ce temps-là, ça me parlait tellement de dire « je suis dans le rouge », ça veut dire que je suis dans le moins. Erreur. Évidemment, ce qui devait arriver arriva, puis ça a brûlé. Puis là, ben, il a fallu que le mécanicien se déplace pour remplacer la batterie sur place, parce que là, elle était complètement finie. Deux leçons à tirer de ça, dans notre rôle de rechargeur. D'abord, il faut savoir utiliser les câbles. Ça aide. Ça prend une connaissance de la parole. On ne peut pas proclamer la parole si nous-mêmes, on ne la lit pas, si nous-mêmes, on ne la prie pas, d'abord. Et deux, il faut absolument sortir des fausses certitudes. Nous, on arrive dans le cadre de quelque chose de bien déterminé. On a toujours appris quelque chose, on a toujours su quelque chose. Moi, j'ai toujours su que ce qui était rouge, c'était du négatif, puis ce qui était bleu, c'était dans le positif. C'est comme ça partout. Mais pas sur les batteries de char. Et il faut apprendre à sortir de nos certitudes. Tout ce qu'on pense, c'est comme ça parce que ça doit être comme ça, puis que ça a toujours été comme ça, puis on l'a toujours fait comme ça, pourquoi on ne continuerait pas à le faire de même? À un moment donné, il faut que ça arrête. C'est peut-être pas au moment, le moment où on le vit. Ça peut être un autre moment donné. Mais un jour ou l'autre, il faut sortir des sentiers battus. Et puis là, ça me ramène à un thème que j'ai déjà abordé ici, que vous reconnaîtrez sûrement. Il faut sortir de sa zone de confort, faire des choses nouvelles, assumer notre rôle de co-créateur. Penser des choses, imaginer des choses. L'Église, ce n'est pas juste entre quatre murs, ce n'est pas juste une communauté qui prie d'une telle façon, qui prêche d'une telle façon. Il y a d'autres façons de faire Église aussi. Forteresse, par exemple, c'en est une façon de faire Église. Et beaucoup d'autres, tous les ministères qu'on a dans l'Alliance et ailleurs. Il faut sortir des sentiers battus. Mais ça, nous, notre limitation humaine fait en sorte que c'est difficile de voir tout le potentiel, tout ce qu'on peut faire avec la parole. Mais ce qui est le plus probable, c'est que ce à quoi le Seigneur nous appelle, quand on a un ministère, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Il va avoir une nouveauté. Abraham, lui, est obligé de faire dans la nouveauté. Il est le père d'un peuple qui n'existe pas, en fait. C'est lui le peuple. Il me semble dire ça aujourd'hui. Je serai le père d'un peuple et le peuple, c'est moi, donc avec ma langue, avec ce que j'inventerai. Ça ne fait pas très crédible. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Avec Abraham, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Avec Jésus, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. L'homme, l'être humain renouvelé apparaît avec Jésus. Et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Là. On n'avait jamais vu d'homme ressuscité. On ne savait pas de quoi ça avait l'air. Il a fallu une première fois, il est sorti des sentiers battus. Personne ne comprenait ce qui se passait. Il venait de le prêcher à ses disciples, il venait de le dire à ses disciples, même pas de le prêcher, il avait dit clairement, je vais revenir, ce ne sera pas long. Puis c'était difficile à croire. Il n'y avait plus d'aliments dans le désert pour le peuple de Moïse, et Dieu leur envoie la manne, quelque chose de nouveau, personne ne sait c'est quoi, personne ne sait si ça se mange. En plus, il venait avec une consigne du Seigneur, avec une date de péremption. C'est pour aujourd'hui, pas plus. Il y a toujours une nouveauté. Et nous, dans ce à quoi on sera appelé, il y a nécessairement une nouveauté. Juste dans un processus de migration, par exemple, ce à quoi vous êtes appelé, il y a toujours une nouveauté. Le lieu où vous arrivez, c'est une nouveauté. La culture, la nourriture, les relations interpersonnelles que vous avez, que vous entretenez, sont des nouveautés. Tout est nouveau. Les gens sont nouveaux. La vie est nouvelle. On ne traverse plus la rue de la même façon. On n'arrête plus au feu de circulation de la même façon, comme Philippe l'avait mentionné à un moment donné dans une de ses prédications. Plus rien se fait pareil. C'est nouveau. Et ce sera toujours comme ça. On est en constant déplacement, en constant renouvellement. Et c'est ça, vivre dans la foi. C'est quelque chose qui est en permanente évolution. C'est quelque chose qui croît constamment. Partir vers un ailleurs comme Abraham, c'est nécessairement sortir de sa zone de confort. Imaginez, lui qui était dans une ville, qui était croissant fertile, c'est-à-dire dans un endroit où on pouvait cultiver, puis se retrouve en plein cœur du désert. Quand on veut faire Église autrement, on sort aussi de notre zone de confort. Il faut aller sur le terrain. Il faut prendre des initiatives comme on prend ici dans l'Église, comme d'autres Églises prennent. Rencontrer la communauté, rencontrer des non-croyants, aller frapper à des portes, souhaiter la bienvenue aux gens, les inviter. Mais ça veut dire aussi côtoyer les gens dans notre vie quotidienne, puis même si ça ne se fait pas au Québec, parler de religion, le faire. Ça nous fait sortir de notre zone de confort assez fortement. Parler de la parole, parler de ce qui s'est passé dans ma vie, parler de mon expérience avec Christ. Nous sommes tous appelés, comme chrétiens et chrétiennes, à comprendre les choses en dehors de leur cadre habituel. Pour sortir de ce cadre-là, il n'y a pas d'autre façon que de lire la Bible. On voit comment il y a des situations inusitées dans la Bible qui nous interpellent. De prier ça avec un cœur sincère, puis demander, Seigneur, éclaire-moi là-dedans. Fais-moi comprendre ce que je dois faire. Et de comprendre que tout ce qui surgit dans la prière, tout ce qui surgit de mon cœur dans la prière, est la parole que Dieu lui-même met dans mon cœur. Là, bien sûr, on se dit, mais ça peut être n'importe quoi. Il faut le confronter avec les autres, et c'est pour ça qu'on est en communauté. C'est pour ça qu'on a des pasteurs, c'est pour ça qu'on a des anciens, c'est pour ça qu'on a des cellules aussi en communauté, parce qu'on a des lieux pour partager ça, pour confronter ça, pour se remettre en question, s'autocritiquer. Mais sortir du cadre habituel, c'est probablement la principale conséquence de notre élection. Quand on est choisi par le Seigneur, on est appelé à être en dehors de la boîte, pour faire une mauvaise traduction de l'anglais. Mais nécessairement, c'est ça. Appelé à confronter des nouvelles choses, des nouvelles situations. Et c'est là, dans cette situation passablement inconfortable, que la créativité vient. Parce qu'on est en recherche de. Et apparaissent des choses qu'on appellera miracles, qui est tout simplement l'action de Dieu dans nos vies. Puis ce matin, en terminant, ce que je voudrais faire, ce serait, on pourra reprendre, ceux qui ne l'ont pas fait encore, vous pouvez la faire, la prière de repentance. Et ce que je veux surtout, c'est pour tous ceux qui l'ont fait, ce qui est le cas de la majorité ici, c'est qu'on reprenne cette prière-là, mais avec une dédicace de plus. C'est-à-dire, Seigneur, prends-moi, utilise-moi pour ton honneur et ta gloire. Fais-moi ton serviteur. Donc, Seigneur, ceux qui veulent se lever pour prier avec moi, faire cette prière, je vous invite à le faire. Seigneur, je me reconnais devant toi, pécheur, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que c'est toi qui me sauves. Je sais, Seigneur, que c'est toi qui m'amènes dans ton royaume. Seigneur, envoie-moi ton esprit pour me guider, parce que je veux suivre ta parole. Je te reconnais comme mon sauveur, Seigneur. Et fais de moi un de tes serviteurs, Seigneur. Donne-moi la créativité que demande le fait d'être à ton service. Fais de moi un serviteur qui prospère dans son service, Seigneur. Fais de moi un serviteur qui obéit à ta parole puis à ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.